Bonjour Michel Metz, vous êtes représentant du réseau Semences Paysannes et du collectif anti-OGM 31. Vous appeliez un rassemblement aujourd'hui à Toulouse devant le siège de la répression des fraudes pour être reçu. Quel était l'objet de cet appel?
L'objet, disons que ce rassemblement, il fait suite à une intervention de la répression des fraudes auprès de petits maraîchers là, sur le marché de la Vannée en Ariège, qui a eu lieu le 17 mai. Hein. Alors, il était signifié que pour vendre des plants sur le marché, comme ça, il fallait avoir la carte professionnelle. C'est la carte de l'interprofession des semences, ça s'appelle le GNIS. Alors, d'une part, il y avait ça, et d'autre part, qu'ils n'avaient pas le droit de vendre des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue.
Alors
Hein?
c'était des plans pour les jardiniers,
Oui,
pour les vieux.
c'est les jardiniers qui viennent se servir. Vous savez, ce sont des maraîchers qui produisent normalement des légumes et qui, à la saison, font quelques plants supplémentaires. Hein? Et ça leur fait, bah, ça ajoute un peu à leur revenu, et ils vendent comme ça, bah, essentiellement des tomates, des poivrons, des aubergines, des courges, des courgettes, et puis des aromates, quoi. Hein? C'est essentiellement ça, quoi. Mais ce ne sont pas du tout des semenciers professionnels, hein, c'est des choses qu'ils font en plus. Et très souvent, d'ailleurs, comme il y en a eu un là qui était là avec nous et qui nous a confirmé que lui utilisait des semences qu'il a héritées de sa grand-mère et tout ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout des semences répertoriées au catalogue. Par contre, bah, les clients, ils les aiment bien, quoi. Hein. Voilà. Alors ça, si vous voulez, il y a donc deux aspects. Il y a l'obligation de la carte du GNIS là, qui pour nous est vraiment un abus pour des gens qui vendent quelques plants comme ça sur le marché.
Alors le GNIS, c'est
Hein?
une organisation de
Alors
semenciers professionnels.
c'est l'interprofession, si vous voulez, des semences. Ça s'appelle le Groupement national interprofessionnel des semences et des plants.
C'est pas un service d'État.
Non, 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 c'est l'interprofession. Hein. Mais par contre, ils sont très écoutés au niveau des services de l'État. Voilà, le petit commentaire que je pourrais faire. Et donc, la deuxième chose, c'est que bah, les semences qui ne sont pas inscrites sur le catalogue, souvent, c'est des semences assez diversifiées, qui ont beaucoup de diversité génétique, qui sont intéressantes. Hein. Mais elles sont pas inscrites. Et de toute façon, il est impensable que toute la diversité comme ça soit inscrite sur le catalogue. Ça coûterait trop cher, puis ça serait bureaucratiquement, ça serait absolument infernal. Donc empêcher comment dire, les maraîchers de vendre quelques plants comme ça et qui mettent à disposition de tout le monde beaucoup de diversité, c'est absurde. Alors c'est légal, c'est vrai, mais c'est absurde. Hein. Voilà, alors ça c'est les deux griefs principaux. Pourquoi une carte du ministre pour ces gens qui font quelques plans, on appelle ça du fichage généralisé, hein. Et
C'est
le
quelque chose
deuxième,
de,
c'est...
c'est quelque
Pardon?
chose d'assez courant que les maraîchers vendent des plants sur le
Ben
marché à
oui,
la saison, au
c'est
printemps.
courant, hein, voilà. Ils ont quelques centaines, ou ils ont droit jusqu'à, enfin, quelques milliers de plants, hein, mais ça va vite, hein, les plants, de toute façon. Et c'est quand même comment dire, c'est une contribution importante à la diversité, sachant que des paysans, il y en a de moins en moins, et c'est bien que les jardiniers, ils cultivent la diversité dans leur jardin, au lieu d'acheter les semences dans des centres tenus par des... Enfin, ce sont des semences qui sont issues de grosses boîtes, quoi. Alors, elles ont été homogénéisées, tout ça, elles n'ont pas la diversité de tout ce qu'on peut trouver encore.
Alors non seulement on empêche les agriculteurs d'avoir là toutes les semences dont ils aimeraient avoir et les cultiver librement, mais maintenant c'est valable d'une certaine manière aussi pour les jardiniers qui pourront plus s'approvisionner
Bah,
en...
disons que c'est le droit des jardiniers d'avoir droit, enfin, le fait d'avoir droit à la diversité, ça disparaît un peu. Le jardinier ne pourra pas être inquiété, lui, hein. Celui qui est soumis à la réglementation, c'est celui qui vend, hein, qui
D'accord.
vend des semences ou des plants. Hein. Le jardinier, lui, n'a pas de raison d'être inquiété. Par contre, il peut s'inquiéter de ne pas avoir la diversité. Parce que tout à l'heure, quand on était à la répression des fraudes, on disait, on fait ça de façon pédagogique pour exister, pour expliquer la réglementation. Mais les petits maraîchers, on a discuté avec eux, une fois qu'ils ont entendu ça, eux, ils n'ont plus envie de revenir. Ils arrêtent de vendre ce genre de plants, de plantes non inscrites. Et du coup, on perd, quoi. On perd la diversité et la disponibilité de tous ces plants, quoi.
Donc là, ils ont eu une menace d'amende, quoi,
C'est
c'est ça?
pas. Bon, menace, c'est peut-être. Enfin, d'une certaine manière, oui, puisqu'on leur a dit que s'ils ne prenaient pas la carte Gnis, ils auraient 450. Enfin, s'ils ne prenaient pas la carte Gnis et s'ils vendaient des semences non inscrites, ils auraient une amende de 450 euros. Ce qui est quand même pas négligeable, hein. Et donc, c'est une forme de menace, quand même. Mais il n'y a pas eu encore de. Enfin, ça n'a pas été plus loin que ça. C'était juste comme ils disent, le pédagogique, c'est un peu gonflé, là, et la menace.
Donc cet après-midi, vous avez été reçu par la répression des fraudes pour interpeller le directeur. Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Oui, alors c'est la répression des fraudes, maintenant, c'est les services ont pas mal changé. Alors on a été reçu, on est allé vers 1h15. Hein. Il y avait une délégation de 5 personnes, et ils nous ont reçus à deux. La directrice de Direct, ça s'appelle comme ça, la Direct, ça regroupe tout un ensemble de services et les fraudes en font partie. Il y a tout ce qui concerne l'aide aux entreprises, la protection des populations, il y a plein de choses, ça a changé, c'est un peu compliqué. Et à l'intérieur, il y a un service propre de la direction des fraudes qui, lui, dépend en particulier d'un service centralisé à Paris. Hein. Voilà. Alors, on leur a expliqué un petit peu ça. On leur a expliqué les raisons, parce qu'il y a une troisième raison que j'ai pas encore dite, mais qui est quand même très importante. C'est le fait que, en ce qui concerne le contrôle sur les semences, ce n'est pas la répression des fraudes, c'est pas un agent de la répression des fraudes qui fait, mais directement un agent de l'interprofession. Hein? Donc, c'est un conflit d'intérêts qu'on dénonce depuis des années et qui perdure, et c'est incroyable. Eux, ils défendent l'intérêt de l'interprofession. L'interprofession, elle est financée en très grande partie par les gros semenciers, quoi. Donc, il n'y a pas d'impartialité. Enfin, on peut se demander l'indépendance et l'impartialité où elle est, alors que la loi stipule clairement que les contrôleurs doivent fournir une garantie d'impartialité et d'indépendance. Alors, ça, c'est la troisième chose qu'on leur a dit, mais ils nous ont confirmé qu'effectivement, ils avaient un certain nombre d'agents, mais que pour les semences, c'était bien quelqu'un de l'UNIS.
Qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre?
Ce qu'on attendait, on voulait leur faire prendre conscience de ces problématiques. Bon, il y a le problème de la carte, là, parce que c'est derrière, c'est le fichage, quoi. Et c'est le fichage au profit des gros, et ça c'est pas une bonne chose, mais c'est aussi la perte de la biodiversité. On voulait leur expliquer ça. Bon, ils sont pas très au courant, ils nous ont dit qu'en plus, sur le plan juridique, sur les semences, ils sont pas vraiment experts, mais ils nous ont donné le nom d'un expert au niveau parisien central, et je pense qu'on montera le voir. Après, on a bien parlé de la biodiversité, de la perte qu'il y aurait à ce que les gens ne puissent pas vendre les plants de leurs propres semences, etc. On a parlé de tout ça. Bon, ils nous ont écouté avec intérêt, mais ils n'ont pas énormément de choses à nous répondre. Là où on a un petit peu tiqué, c'est quand la dame, puisque c'est une directrice, nous a parlé des visites pour la pédagogie. En fait, c'est peut-être qu'on peut considérer que c'est de la pédagogie d'expliquer la réglementation, mais les petits maraîchers qui se sentent un peu seuls, eux, ça les encourage à ne plus faire ce qu'ils faisaient avant pour l'intérêt général. Quoi.
Notre dernière émission avait porté sur le puçage électronique, l'obligation qui est faite pour les brebis et les chèvres. Et le questionnement du fichage des agriculteurs et d'administralisation un peu du métier d'agriculteur se posait.
C'est un peu la même chose, et vous avez aussi la même chose pour ce qu'on appelle la voie mâle, c'est-à-dire les reproducteurs sur les animaux. Hein. Et il va falloir que tous les reproducteurs ou la semence des reproducteurs soient certifiés aussi. C'est-à-dire que tout est fiché et on perd forcément de la diversité avec ça, forcément. Hein. Donc c'est très embêtant. Alors, nous, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Hein. On a dit qu'on allait se porter, si jamais il y en avait qui étaient vraiment inquiétés, c'est-à-dire qu'ils étaient verbalisés, eh bien qu'on serait plusieurs à se dénoncer comme quoi on veut être verbalisé comme eux, parce qu'on a aidé des gens à vendre des blancs, enfin on trouvera les bons arguments, on a fait remplir une fiche cet après-midi, et ça va continuer sur Internet, sur le site Sûrement la biodiversité, hein, on va continuer tout ça. Voilà. Et parmi les choses importantes qu'on a dit aussi, c'est qu'actuellement il y a toute la révision de la réglementation européenne sur les semences, et il y a des petites niches qui s'ouvrent, des choses qui sont un peu intéressantes, mais elles sont refermées par d'autres articles et qui parlent. Il est beaucoup question d'autocontrôle sous contrôle officiel, si vous voulez, c'est pour appliquer des normes industrielles. Et on le sait depuis longtemps, ça, appliquer des normes industrielles à des petits producteurs, des petits maraîchers, des petits fromagers, des choses comme ça, ça veut dire que quasiment on les tue, quoi. Ces choses-là ne sont pas du tout adaptées aux petits producteurs qui peuvent avoir d'ailleurs des moyens sanitaires simples qui fonctionnent très bien, tout ça. Bon, maintenant, quand on met des marchés en grande quantité, quand on les vend à Carrefour, qu'il y a des normes sanitaires importantes, oui, mais c'est pas du tout le cas. Là, on est dans la vente directe, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut vraiment se battre pour que on n'utilise pas les mêmes normes pour la grosse industrie et pour les petits artisans.
Alors, vous faites partie du réseau Semences Paysannes.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objet de ce réseau?
Le réseau de Semences Paysannes, c'est d'abord un réseau d'acteurs qui font vivre effectivement cette diversité biologique, cette biodiversité cultivée. Alors, historiquement, c'est parti à partir de paysans boulangers qui utilisent des variétés paysannes de blé, c'est-à-dire des variétés d'avant la Révolution verte, et qui ont de très très bonnes qualités boulangères, entre autres. Ils peuvent faire aussi des pâtes, il y en a qui sont des brasseurs aussi. L'idée, c'est de partir d'une céréale de qualité, puis de faire la transformation à la ferme. Ça, c'est le paysan boulanger. Donc, historiquement, c'est parti de ça. Mais après, c'est plein d'associations qui l'ont rejoint avec des activités différentes autour soit de l'agriculture biologique, soit autour de la remise en culture de semences paysannes. C'est tout ça. Alors ça fait 10 ans, on fête les 10 ans cette année. Alors ça, c'est une activité générale. Il y a beaucoup de savoir et beaucoup de savoir-faire, bien sûr, et échange de savoir-faire, c'est très important. Et à côté de ça, il y a tout un pôle juridique et une compétence technique, si vous voulez, sur ces blés-là en particulier, sur les aspects génétiques, tout ça, et aussi donc une compétence juridique, parce que la réglementation en la matière, elle est quand même assez compliquée et elle est en train d'évoluer très vite d'ailleurs.
Alors, vous faites un autre signataire de cet appel à un rassemblement aujourd'hui devant la répression des fraudes, c'est le collectif anti-OGM 31, dont vous faites aussi partie.
Oui.
Et quel est l'objet de ce collectif?
Alors, disons que le collectif anti-OGM 31, comme son nom l'indique, c'est un collectif pour organiser ou pour, comment dire, organiser des événements ou suivre l'actualité des OGM, organiser des événements quand il y a des procès, des choses comme ça. Alors, dedans, il y a des faucheurs, mais il y a aussi des tas d'associations comme ATTAC, les Habits de la Terre, Greenpeace, voilà. Donc, c'est un collectif d'associations, enfin d'organisations, autour des OGM et disons la bataille contre les OGM. Mais si vous voulez, on a du mal à séparer le fait d'être contre les OGM et d'être pour les semences. Disons que c'est des combats complémentaires. Alors, c'est vrai que historiquement, on était plutôt sur les OGM, et c'est vrai que quand on peut aussi à l'occasion se battre pour les semences, il n'y a pas de problème, quoi. C'est les problématiques qui se complètent.
Les OGM sont aussi une menace sur la biodiversité, sur les semences paysannes.
De façon plutôt indirecte. Disons que les OGM, c'est le fer de lance de l'agro-industrie, quoi. C'est ça qu'il faut voir. En général pour de la culture très productiviste, tout ça, et c'est ça qui met en l'air la biodiversité avec les pesticides, et c'est vrai que c'est pas adapté pour les petits producteurs, des choses comme ça. Donc les OGM sont indirectement, il faut régresser la biodiversité comme le fait en quelque sorte l'agriculture industrielle. Voilà. Alors après, ce qu'il peut y avoir en plus, et ça c'est vraiment compliqué, c'est qu'il peut y avoir des semences bio, des semences de maïs ou autres, qui sont contaminées par les OGM et qui, du coup, perdent, leur qualité initiale en termes de variété bio ou des choses comme ça. Et ça, là où les OGM ont été massivement cultivés, comme le maïs en Espagne, il y a des populations bio, enfin ce qu'on appelle des populations, qui ont été complètement pelvées, quoi. Et au Canada, par exemple, où ils font beaucoup de colza OGM, on ne peut plus trouver de colza bio là-haut, c'est plus possible. Donc il y a ce deuxième aspect, c'est-à-dire que non seulement c'est la fuite en avant vers la technologie, l'agriculture toujours plus productiviste, et en même temps des risques de pollution dont on aura beaucoup de mal à se débarrasser.
C'est une manière encore plus violente d'imposer une...
Ah oui, oui. Alors, parce qu'en plus après il y a les brevets par derrière, et avec les brevets, on peut se retourner contre vous pour dire mais cette plante elle m'appartient, et c'est vrai que c'est un vrai problème. Le brevet sur le vivant, c'est pas vieux, ça date de 80 aux États-Unis, 1980 aux États-Unis et 1998 en Europe, et c'est vrai que c'est très inquiétant de voir qu'on puisse breveter le vivant, c'est-à-dire sur la descendance. C'est le brevet sur la descendance qui pose vraiment des problèmes, quoi. Donc si par exemple pour une raison ou pour une autre, vous retrouvez dans votre plante avec un gène de Monsanto, la plante en entier appartient à Monsanto, quoi. Ce qui est quand même ahurissant, mais enfin c'est comme ça. La réglementation, c'est celle-là.
Pour finir, est-ce que c'est quelque chose de plus en plus courant d'avoir autant de contrôle sur les paysans? On entend par rapport au sujet de notre émission précédente sur les contrôles sur les puces électroniques, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, c'est la même chose.
Ah, bah, y a quand même une volonté généralisée de contrôle. Hein. Bon, au niveau des semences, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il suffit qu'il y en ait quelques-unes pour dissuader certains. Hein. Mais il n'y en a pas encore eu beaucoup, mais on se demande, là, il y a une petite recrudescence, et on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière la tête de tout ça, parce qu'on nous a bien dit, là, tout à l'heure, à la direction générale, là, de Toulouse, qu'ils recevaient un plan de contrôle de Paris, hein. Alors après, qui c'est qui dit qu'il faut faire des contrôles sur les semences, on peut penser que le GNIS y influe un petit peu.
D'accord.
Voilà, alors pour les autres, moi je connais moins bien, mais c'est vrai qu'il y a quand même des organisations qui sont mises en place pour le puçage, et puis bientôt, là, c'est la voie mâle dont je parlais tout à l'heure. Là, hein. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de sélection à la ferme, quoi. En fait, tout ce qui est le matériel de reproduction, tout ça, c'est quelques-uns qui veulent tout maîtriser, et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour des raisons de... C'est trop puissant entre leurs mains, mais aussi, c'est la biodiversité qui est fichue en l'air.
Mais je vous remercie de cette intervention. Je rappelle que vous êtes Michel Metz, que vous faites partie du réseau Semences Paysannes et du collectif anti-OGM 31, et que vous étiez, vous appeliez aujourd'hui à un rassemblement devant le siège de la répression des fraudes par rapport à des maraîchers qui vendaient des plants pour les jardiniers sur un marché d'Ariège. C'était fait menacer d'amende, et voilà. C'est quelque chose qui vous inquiète.
C'est bien ça.
Eh bien, merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.